at the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't
nothing is true. Everything is permitted.
Do a barrel roll.
Oh, cool, you tie.
Well, this is a tomb. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait. That's not how it happened.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Une heure et des pixels, votre émission dédiée à la culture vidéoludique, produite et réalisée par l'association Pixel Up, grâce aux subventions de l'université Sorbonne Nouvelle, et diffusée ici, sur Radio Campus Paris. Ce mois-ci, nous accueillons Emeline Guedes, doctorante sur l'encadrement juridique des compétitions de jeux vidéo. Bonjour Emeline.
Bonjour tout le monde, enchanté.
Salut Emeline.
Merci de me recevoir.
Alors Emeline, tu es juriste de formation et tu travailles plus particulièrement sur l'encadrement juridique de l'e-sport, sous le prisme des problématiques numériques et des enjeux du développement économique. Et à côté de ça, tu es chargé de la veille de ces domaines pour l'agence Paris & Co, c'est bien ça?
Oui, complètement.
Nickel, alors si vous voulez en apprendre plus, écoutez bien l'entretien en milieu d'émission. Mais au programme aujourd'hui, en plus de notre entretien, Lise va nous parler de l'adaptation vidéoludique du roman d'Orwell, La Ferme des Animaux. Thaïs revient pour une chronique trimestrielle qui abordera le design du multijoueur. Je vous parlerai ensuite... juste avant l'entretien d'un petit jeu qui m'occupe presque tous les jours depuis plus d'un mois. Et enfin, Ash prendra les rênes de l'émission pour parler de Women in Games et de féminisme, puis terminera l'émission sur un blind test qui nous fera danser. Et je laisse donc la parole à Lys pour la première chronique du mois de mars.
Merci Alexandre. Aujourd'hui, je me concentre sur une nouvelle adaptation vidéoludique, et on va parler d'une œuvre assez connue, La Ferme des Animaux de George Orwell. Si c'est surtout 1984 que l'on retient de cet auteur, La Ferme des Animaux, publiée en 1945, n'en reste pas moins une dystopie tout aussi effrayante et importante. Découpé en 10 chapitres, ce livre est ce qu'on appelle un apologue, un récit court dont les lectrices et lecteurs doivent tirer une morale, à la manière d'une fable. Un soir, dans la ferme du manoir de Mr. Jones, le plus vieux des cochons, sage l'ancien, convoque tous les animaux dans la grange pour leur parler d'une vision qu'il a eue. Il dénonce l'exploitation dont sont victimes tous les animaux de la ferme et la mort prématurée à laquelle ils sont condamnés. Il invite au soulèvement et parle de créer une république des animaux où nul animal jamais ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux. Il meurt quelque temps après et la révolte commence. Les animaux chassent Mr. Jones et ses employés. Deux cochons mènent le soulèvement, Boule de Neige et Napoléon, et ce sont eux qui vont prendre la direction de la ferme nouvellement baptisée la Ferme des Animaux. Si tout semble d'abord réuni pour qu'ils vivent libres et heureux, on s'aperçoit très vite que l'égalité proclamée par les cochons n'est pas tout à fait respectée. Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. Dans ce roman, Orwell propose une satire de la Révolution russe et une critique du régime soviétique sous Staline et plus largement des régimes autoritaires. On peut également penser le texte comme une réflexion sur l'exploitation animale, notamment au travers du discours de Sage l'Ancien. Des thématiques que propose de reprendre le jeu Orwell's Animal Farm, sorti en 2020. Sous la forme d'un conte interactif qui fait la part belle à la narration textuelle, il nous permet de plonger au cœur de l'animalisme. C'est développé par le studio britannique Nerial, connu surtout pour Reigns, un autre jeu narratif avec des choix qui se présentent sous forme de cartes. Et leur prochaine création, Card Shark, est prévue pour cette année. On a ici une reconstitution très fidèle à l'œuvre d'Orwell. On y retrouve les mêmes personnages, qu'il s'agisse des animaux ou des humains, le basculement progressif vers un régime autoritaire mené par Napoléon, protégé par ses molosses, des symboles importants comme le crâne de Sage l'Ancien, exposé près des Sept Commandements, ou le drapeau vert avec la corne et le sabot croisés, tels le marteau et la faucille. Le vert du drapeau représente les verts pâturages d'Angleterre, la corne et le sabot, la future république. Livre et jeu décrivent un travail lourd et difficile au fil des saisons. Je cite « Tout le printemps et pendant l'été, ce fut la semaine de 60 heures, et en août, Napoléon fit savoir qu'ils auraient à travailler aussi les après-midi du dimanche. » On peut associer le cheval Malabar à l'ouvrier chevronné Stakhanov qui travaille sans cesse. D'ailleurs, dans le jeu, quand on doit choisir qui va travailler, Malabar est toujours disponible et en forme. Et puis bien sûr, le jeu reprend à l'identique les 7 commandements de l'animalisme, commandements qui évolueront par la suite de la même façon. Nul animal ne dormira dans un lit, deviendra, nul animal ne dormira dans un lit avec des draps. Autre exemple, nul animal ne tuera un autre animal, nul animal ne tuera un autre animal, sans raison valable. Ces commandements, écrits en blanc initialement, deviennent rouges quand ils sont modifiés par les cochons dans le jeu. À la manière des Reigns, on nous propose des choix de dialogue qui mènent à différentes fins de scénario, toutes assez proches de la chute choisie initialement chez Orwell. Il y a également un aspect gestion de ferme, s'assurer qu'il y a de la nourriture pour tout le monde, chasser les traîtres ou espionner, lancer l'assaut contre les fermiers. On suit ainsi la ferme au fil des saisons sur plusieurs années, comme c'est le cas chez Orwell. Si l'aspect répétitif est normal dans la vie à la ferme des animaux, on peut se questionner sur l'apport de cette répétition quant aux propos de l'œuvre. D'un côté, cela permet de mieux se rendre compte du travail pénible et répétitif, d'un autre côté, la force du discours est malheureusement atténuée, car l'escalade de la violence est moins visible. Pour rappel, sur la fin du roman, on assiste à des exécutions en masse terrifiantes. L'adaptation reste intéressante pour faire découvrir à celles qui n'aiment pas trop lire une œuvre qui porte un discours important, toujours valable aujourd'hui. Le jeu est illustré à la façon d'un album pour enfants, avec de nombreuses couleurs. On peut trouver cela très scolaire, mais cela change aussi de la représentation dystopique habituelle très clichée, très sombre, presque complaisante. Cette ferme simple rappelle un point important. Même dans un cadre qui paraît sain et chaleureux, peuvent survenir des dérives autoritaires. Merci de m'avoir écouté.
Merci Lise pour cette chronique. Personnellement, j'ai juste lu le livre, je me souviens, quand j'étais au lycée. Mais tu m'as donné quand même pas mal envie d'aller voir ce jeu dont j'ai entendu parler, mais j'ai jamais vraiment poussé plus loin. Donc ça m'a l'air fort intéressant.
Tu devrais retrouver globalement ce que tu as lu, parce que c'est très très vraiment, même textuellement, c'est quasiment au mot près la même chose, quoi.
Merci pour la chronique, c'était super intéressant. Je me demandais, est-ce que du coup, le fait qu'il y ait ce côté un peu plus... on accentue un peu plus la vie quotidienne, etc. Est-ce que ça vient aussi importer un propos différent, typiquement, de montrer aussi comment les gens s'épuisent ou comment les gens vivent et avoir un truc plus ancré justement dans le quotidien et dans cette lente... dans ces lents changements dans l'intime, etc. Ou est-ce que c'est un peu pas assez exploité, justement, et c'est vraiment juste une perte par rapport au roman, comme tu disais ?
Il y a un peu des deux, parce que il y a des éléments qui sont pas forcément... qu'il n'y a pas dans le roman. Par exemple, il y a les bâtiments qui vont s'abîmer, qui vont prendre l'eau, qui vont prendre le froid, et si on fait rien, en fait, pour les réparer, ça va impacter, en fait, toute notre suite du jeu, et on n'aura pas exactement les mêmes cheminements. Donc ça a quand même un intérêt, mais... disons que ouais, ça dépend les choix qu'on fait et ce qui se passe, quoi. Après, ça reste quand même très répétitif sur les saisons. Il y a peu de nouvelles actions à chaque fois qui sont proposées. Ça se déroule à peu près entre 4 et 7 années. Et on a souvent les mêmes choses qui reviennent, les mêmes choix à chaque fois à faire. Donc, c'est assez, ça devient vite redondant.
Est-ce que le fait d'être, comment dire, que le roman soit mis en jeu apporte véritablement quelque chose à l'œuvre originale, sachant qu'en plus, comme tu l'as précisé, on est quand même très très proche du texte d'Orwell au départ. Est-ce que tu trouves que ça, par rapport à ta lecture de l'ouvrage, le fait de jouer au jeu a apporté une nouvelle dimension à ce que voulait dire Orwell ?
Non, pour moi pas du tout. Enfin, je dirais même que j'étais un peu déçue de la fin, parce que je sais que la fin du roman m'avait vraiment laissé une image assez, assez marquante. Et ça n'a pas vraiment été le cas du jeu. Enfin, j'étais un peu... ouais, je sais pas, ça m'a un peu déçue. Après, moi, je trouve plus qu'il y a un intérêt, voilà, pour un peu populariser l'œuvre, pour ceux qui l'ont pas lu, ou qui, si on veut le faire découvrir de façon un peu plus interactive, comme on a un peu des choses à faire. Mais, ouais, pas. Enfin, si on a déjà lu le livre, en fait, je pense que ça apporte pas grand-chose de faire en plus le jeu, quoi.
Super, merci encore, Lise, pour cette chronique. Et c'est maintenant au tour de Thaïs de nous parler de game design et de multijoueur.
En ce moment, je n'ai pas le cœur à jouer. La conséquence directe, c'est que je ne joue pas. Je lis des livres tristes, parce que ça m'aide à pleurer quand j'y arrive pas, mais que j'ai besoin que ça sorte. Mais autour de moi, ça joue toujours. Forcément, ça joue à Elden Ring. Ça joue à la démo de Kirby et le monde oublié. Ça joue à Kukiyomi, parce que après vous en avoir vanté les mérites ici même dans l'émission de Noël, je n'ai pas cessé de prêcher la bonne parole et que ça a fini par porter ses fruits. Ça joue aussi, forcément, au jeu sur lequel on travaille au studio et qui ne tardera pas à être annoncé. Pas évident au premier abord de tirer un trait entre tous ces jeux, ne serait-ce que parce que, contrairement à moi, il y en a au moins un que vous ne connaissez pas. Et pourtant, c'est ces quatre jeux qui m'ont donné envie de parler ici de multijoueurs. À vrai dire, de toute ma modeste carrière de game designer, je n'ai jamais vraiment travaillé sur un jeu solo. Quelques game jams tout au plus, et encore, pas toutes. Quand je peux faire du multi, je fais du multi, même en jam. C'est assez différent de mon expérience de l'autre côté, où j'ai plutôt tendance à m'enquiller des kilomètres de JRPG dans l'intimité de mon petit écran de Switch. Mais voilà, scoop, les jeux qu'on aime faire et ceux auxquels on aime jouer ne sont pas automatiquement les mêmes. À titre personnel, j'aime carrément à croire que je design pour le multi parce que je sais ce que je lui reproche souvent. Je design aussi pour le multi parce que je sais, d'expérience, que quand je me sens comme je me sens aujourd'hui et que je n'ai pas le cœur à jouer, c'est le multi qui m'y redonnera goût, comme à chaque fois. La dernière fois, c'était Streets of Rage 4, sur un projo, une nuit d'été dans le sud de la France, dont je chéris le souvenir jusqu'à l'exact moment où on abandonne après une énième tentative de combat final perforée par le seum et les moustiques. Ça n'est que partie remise. Et on n'est pas à l'abri que la prochaine fois aussi, Streets of Rage 4 soit le multi qui me fasse reprendre une manette because of unfinished business. Il y a plein de façons de designer pour le multi, parce qu'il y a plein de façons d'interagir entre personnes. Pour commencer, il y a bien sûr la grande opposition entre compétition et coopération, et leur cousine, la coopétition. Mais aujourd'hui, je vais m'intéresser plus particulièrement à la coopération. Déjà parce que c'est ce que je préfère, et ensuite parce que je pense qu'en ce moment, ce serait pas du luxe de se souvenir un peu d'à quel point la coopération est protéiforme, et d'à quel point on peut cacher des idées différentes derrière ce simple mot. Si on reprend nos exemples du début, la coop d'Elden Ring n'est pas une évidence. Elle est symétrique et asynchrone. Symétrique parce que toutes les personnes qui jouent ont accès aux mêmes possibilités. Et asynchrone parce que les interactions entre personnes ne se déroulent pas en temps réel, elles fonctionnent comme une trace qu'on laisse. J'aime beaucoup ce type de coop qu'on retrouve dans beaucoup de jeux From Software, mais aussi dans Death Stranding ou Nier Automata. Ce que nous dit ce design, c'est que quand on fait face aux mêmes obstacles, alors ça signifie qu'on peut s'aider, partager son savoir, se mettre en garde, se tirer vers le haut. L'asynchrone permet de donner une dimension désintéressée. On ne sait pas qui on aide, mais tant pis. On laisse une trace de son expérience pour potentiellement aider tout le monde plutôt que d'individualiser cette aide. Dans Kirby et le monde oublié, la logique s'inverse. La coop est asymétrique, après tout il n'y a qu'un seul Kirby, et synchrone. Et la signification de cette coopération s'inverse aussi. Waddle Dee n'a pas son nom dans le titre du jeu, on n'est pas là pour lui. Et si son moveset de Player 2 est très agréable, on sent que c'est nécessairement jouer Kirby qui est le plus drôle. On ne peut pas se transformer, on est juste un assistant, aussi soigné soit-il. L'épitome de cette altérisation, c'est la gestion de la caméra, toujours centrée sur Kirby et n'hésitant pas à TP Waddle Dee dès qu'il sort du champ, quitte à rendre les actions illisibles pour lui. Là aussi, ça dit des choses. Ça dit qu'il n'y a jamais qu'un seul vrai héros, mais qu'on peut l'aider au long du chemin, qu'une personne providentielle existe et que le monde existe pour des gens importants. Et que seul, un Waddle Dee ne peut pas naviguer le monde de Kirby. Il n'est pas fait pour lui. Personnellement, quand je design pour le multi, j'essaie de penser au sens que ça aura avant de penser à la façon de le mettre en place. Dans la pratique, c'est beaucoup d'aller-retour et de raffinement, mais dans la théorie, c'est comme ça que je fonctionne. Il est trop facile de faire dire à la coop des choses qu'on ne veut pas qu'elle dise, ou de laisser traîner des sens qui parasitent la lecture. Je ne suis pas naïve, je sais bien qu'en jouant à Pile-Up, personne ne se dit « Bon sang, mais c'est bien sûr ces portes entre les salles qu'on ne peut franchir que si tout le monde est là, c'est le signifiant profond du fait que nous n'avançons pas collectivement si nous laissons derrière nous les personnes les plus fragilisées. » Mais au studio, on préfère quand même avoir cette direction en tête quand on travaille. Chaque interaction multi a un sens, elle raconte une histoire. Il y aura l'histoire que vous allez vivre en la jouant, mais il y a aussi l'histoire mécanique qu'elle raconte. Je n'aime pas particulièrement le concept de rhétorique procédurale, précisément parce qu'il fait pour moi un peu trop abstraction des personnes qui jouent et de tous les accidents qui peuvent se produire dans une partie et qui sont démultipliés par le multijoueur. Mais malgré tout, il nous aide à garder à l'esprit que quand on a le pouvoir d'écrire les règles d'un monde, il n'en restera pas moins expérimenté par des personnes qui vivent dans le nôtre. Tâchons de leur donner du grain à moudre. Merci.
Super Thaïs, merci beaucoup pour ta chronique. T'as dit un truc sur la fin et sur le design de Pile-Up qui m'a beaucoup fait penser à mes parties en coop de Halo, justement. On parle beaucoup de Halo dans Une Heure et des Pixels, c'est un truc qui revient souvent. Ça me fait beaucoup penser à mes parties coop de Halo, puisque j'ai refait à peu près toute la saga en coop il y a quelques mois pour la sortie du dernier. Et c'est du coup pas du tout designé comme Pile-Up, c'est-à-dire que là, si un joueur avance, toi, tu peux être 500 mètres derrière en train d'essayer de tuer tous tes ennemis, puisque c'est un peu le but du jeu. Mais si une personne avance, tous les autres sont téléportés immédiatement au prochain checkpoint dès qu'il est passé. Et c'est quelque chose qui est très énervant, en fait, dans le design de la coop. Donc voilà, du coup, effectivement... C'est pas mal le Pile-Up. Voilà.
Merci. Ouais, effectivement, cette histoire de la gestion de caméra dans le multijoueur, c'est vraiment. C'est un peu le nerf de la guerre, en fait. La façon dont on choisit de gérer la caméra, elle dit énormément de choses sur la coopération. Et en l'occurrence, dans Halo, cette façon de fonctionner par checkpoint et de toujours téléporter les gens pour les rapporter au niveau du joueur qui est le plus avancé. En fait, ce que ça dit, c'est simplement on est là pour avancer. On n'est pas là pour céder. Il suffit qu'il y en ait un seul qui arrive à avancer et ça va carrer la team, quoi. Donc, c'est assez intéressant parce que finalement, ça permet de jouer à Halo en pack et que personne ne souffre de cette histoire de TP. Mais ça permet aussi d'y jouer d'une façon très escorte, finalement. L'objectif, c'est qu'il y en ait un qui arrive à avancer et si nous, en tant que le reste, c'est pas grave. Et c'est une chose qu'on peut accepter ou qu'on peut ne pas aimer. Mais c'est vrai que de façon générale, l'histoire de forcer la téléportation de joueurs-joueuses pour rejoindre la personne entre guillemets la plus avancée, ou comme dans le nouveau Kirby, c'est-à-dire juste rejoindre Kirby en fait, même si on était plus avancé, ça dit quelque chose de ce à quoi on attache de l'importance, ouais, et de ce qu'on crée comme dynamique de jeu.
Quand tu parlais au début de Dark Souls et de ces jeux qui ont cette coop un peu étrange et qui parfois n'est pas une coop parce que plein de gens se laissent des pièges, etc., ou l'utilisent parfois comme les noms pour autre chose, ça m'a fait penser, et c'est pas directement lié, mais Half-Life 2 avait eu un mode coop, enfin un mode du coup fait par la communauté. Je devais y avoir joué quand j'avais 13-14 ans, et en fait... C'était très particulier parce que, oui, il y avait 5 ans après le jeu, il y avait encore des gens qui traînaient là-dessus, et c'était encore relativement actif. Et c'était cette expérience très particulière de... C'était un jeu qui n'était pas du tout prévu pour la coop. On était juste... tout le monde était à côté, faisait sa petite vie, et il y avait vraiment ce côté, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas non plus de coopération, en fait, il n'y avait pas spécialement d'objectif commun ou quoi que ce soit, c'était juste tout le monde qui vibait à côté et qui faisait qui progressait dans le jeu, etc. Et il y avait ce côté d'avoir ni d'objectif commun, d'avoir aucun objectif commun ou de compétition, ça crée une certaine ambiance un peu wholesome, et c'était assez rigolo. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, en plus de l'insynchrone, etc., qu'on retrouve dans les Dark Souls, d'avoir ce côté, et qui est peut-être un peu en dehors de coopération, compétition, de juste être côte à côte et exister. Peut-être que Journey, c'est un peu la même chose aussi, dans ce côté ni l'un ni l'autre.
Ouais, il y a de ça. Ça, pour le coup, du coup, en design, c'est encore autre chose. On appelle ça le co-play, généralement. Et du coup, c'est l'idée qu'on va partager un même espace, une même temporalité, mais qu'en fait, on ne joue pas, entre guillemets, la même partie. C'est-à-dire, on joue simultanément et on partage un espace, mais on ne joue pas la même partie. C'est quelque chose qui existe dans les MMORPG, par exemple. Même si tout le monde n'y joue pas de cette façon, mais en tout cas, d'une façon ou d'une autre, le co-play existe à l'intérieur des MMORPG. Et ça existe dans un certain nombre de jeux en ligne, en fait. Mais il y a aussi des jeux qui ne sont pas du tout des jeux en ligne et qui mettent en place des dispositifs de type co-play. Moi, je vous recommande fortement, si vous ne connaissez pas le jeu The Yogue, alors c'est extrêmement chiant à écrire, mais c'est vraiment extrêmement bien. Donc ça s'écrit YAWHG. Et du coup, c'est un jeu narratif textuel en multijoueur, qui est une sorte de visual novel, dans lequel on va tous simultanément, autour par tour, enfin du coup pas simultanément, on va tous autour par tour, mais dans une seule et même partie, vivre une histoire à l'intérieur de ce monde et prendre chacun nos décisions sans qu'elles aient d'impact absolument sur la partie des autres. Et effectivement, le co-play, on le voit assez peu. C'est quelque chose qui est assez peu exploité, en tout cas seul. Souvent, il peut cohabiter avec de la compétition ou de la coopération. Mais c'est vrai qu'il existe rarement pour lui-même. Mais les jeux dans lesquels il existe pour lui-même sont des jeux assez précieux, je trouve.
Merci encore, Thaïs, pour cette chronique. Ça va être à mon tour de vous parler, et il faut que je vous avoue un truc que j'ai trouvé toujours un peu honteux pour aucune raison, mais j'adore les jeux télé où on apprend des choses. J'ai passé une bonne partie de ma prépa à regarder des replays de questions pour un champion, qui sont d'ailleurs tous en accès libre sur YouTube, et même si l'émission ne m'a jamais vraiment plu, j'adore le principe de Motus. Alors quand mi-janvier, la déferlante Wordle s'abat sur les réseaux sociaux, c'est le moment pour moi de surfer sur la vague et de me prendre quelques murs. Wordle, c'est un petit jeu sur navigateur développé par Josh Wardle, ça ne s'invente pas, et qui reprend le principe du motus. Vous avez 6 essais pour trouver un mot de 5 lettres, bien sûr en anglais, sinon c'est pas drôle. Un peu moins maintenant, mais j'y ai passé à peu près 10 minutes par jour pendant presque un mois. C'est le petit jeu du métro, le petit jeu des toilettes, le petit jeu de la salle d'attente du test PCR. Vraiment un jeu à vous rendre accro. Et vous avez dû entendre parler des différents rachats ces derniers mois, notamment Activision Blizzard racheté par Microsoft. Et d'ailleurs, si les campagnes des derniers Call of Duty arrivent dans le Game Pass, je ne réponds bien sûr plus de rien. Mais la palme du rachat le plus original, et pourtant très logique, revient au New York Times qui a racheté son jeu à Josh Wardle pour l'intégrer sur leur site web. Chapeau bas donc pour ce move inattendu. Mais ce qui m'a passionné ces dernières semaines, c'est le nombre infini de déclinaisons de Wordle créées par d'autres développeurs et développeuses. On a bien sûr le mot, qui est l'équivalent en français, le sutum, qui là reprend exactement le motus, sutum, motus, quordle et octordle, où il faut trouver respectivement 4 et 8 mots en même temps. C'est très dur, mais quand vous réussirez votre premier, je pense que vous serez très très heureux. Et absurdle, qui change le mot à deviner à chaque essai, et en compose un nouveau uniquement avec les lettres non utilisées. Celui-là m'a été recommandé par Thaïs, et j'ai toujours pas réussi à en faire un. Et même, pour mes mélomanes sûrs, Hurdle, H-E-A-R-D-L-E, qui vous demande de trouver, toujours en 6 essais, une musique en écoutant seulement les premières secondes. Ça, pareil, j'ai toujours pas réussi, c'est super dur, mais c'est très rigolo. Alors moi, j'en ai vu certains ici partager sur Twitter leur victoire de Wordle, et ma petite question, c'est est-ce que vous y jouez toujours? Ou est-ce que vous êtes passé sur des déclinaisons, peut-être en français, ou sur d'autres thèmes?
Ouais, moi j'y ai beaucoup joué aussi. Wordle, le mot, sutom, et puis un petit peu octordle aussi. C'était ma petite activité quotidienne le matin aussi.
Ouais, moi j'avoue, j'ai toujours, sur mon téléphone, dans le navigateur web, j'ai une des fenêtres qui a tous les onglets avec tous les Wordle et toutes les variations que je fais. Alors, je ne les fais plus nécessairement quotidiennement maintenant, mais en revanche, dès que j'ai un trou ou une pause ou n'importe quoi, si je m'ennuie en attendant le train, je vais toujours finir par le rouvrir, en fait, parce que c'est vrai que ça a cette espèce de simplicité et d'évidence qui est hyper agréable, quoi. Et tu ne l'as pas mentionné dans ta chronique, mais je ne sais pas si vous connaissez Wordle, qui est un équivalent géographique.
Ouais, ouais.
Et pour le coup, celui-là, on le joue au bureau. On le met sur le projecteur. Et en fait, ça projette la silhouette d'un pays. Et il faut faire des propositions de noms. Et ensuite, il y a un petit système qui va te dire le pays en question, dans quelle direction il se trouve par rapport à celui-là, à combien de kilomètres, et ainsi de suite. Et pour le coup, c'est une variation qui est hyper difficile, mais qui est hyper chouette et très très originale. Je vous recommande Wordle. C'est comme Wordle, mais avec le L de World.
Moi, j'avoue, je vois l'effervescence hein, sur les réseaux sociaux, etc. Plusieurs fois, je me suis dit, vas-y, je vais tenter. Mais j'ai tellement peur de ce côté trop addictif où, tu sais, tu fais une pause de 10 minutes et après, finalement, ça te fait une demi-heure pour essayer de trouver un mot ou je ne sais quoi. Mais j'avoue que le Wordle, je ne connaissais pas. Et donc, bah, merci Thaïs pour cette info, parce que je pense qu'en team building d'équipe, tu vois, ça peut être... Ça pourrait être un truc hyper, hyper cool et hyper rapide, donc merci de ce petit filon, en tout cas.
Mon plaisir.
Perso, j'ai abandonné Wordle très vite parce que ma meuf passait toujours derrière et me chuchotait les réponses à l'oreille. Du coup, je pouvais pas poster mon Wordle du jour parce que c'était pas moi qui l'avais trouvé. Mais oui, vu que Wordle a ce côté, a un peu cette communication asynchrone où on partage ses résultats et des petits indices avec les autres gens sur les réseaux sociaux, est-ce que Wordle ce serait pas le Dark Souls des motus?
En plus, c'est pas un peu devenu plus dur depuis que c'est passé, ça a changé le journal, non, je crois.
Depuis que c'est au New York Times, il y a pas mal de gens qui se plaignent qu'effectivement c'est plus dur.
Ouais, la vérité, c'est qu'en fait, maintenant, il en existe tellement que je trouve que la difficulté des mots n'est pas vraiment un problème, en fait, parce que bah, y en a qui existent avec des banques de mots plus ou moins difficiles et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il y a dans le concept une espèce d'évidence qui fait qu'on trouvera de toute façon, on en trouvera un qui nous convient, quoi.
Jean ?
Oui, alors en ce qui me concerne, j'ai jamais touché à Wordle ni à ses dérivés parce que ça m'attire pas du tout et que je pense aussi, j'ai pas assez confiance dans mon niveau d'anglais. Mais en revanche, j'ai vu passer sur le réseau un truc que j'ai trouvé vraiment très chouette, c'est que pour l'affichage des résultats, les gens affichent ces grilles avec les petites icônes de couleurs. Et j'ai vu qu'il y avait un mode, alors je sais pas comment ils sont débrouillés, je suis pas allé me renseigner, mais peut-être un bot qui a fait ça, où en fait les résultats sont affichés sous la forme d'un screenshot pris dans Townscaper, un tout petit jeu indé de construction de ville, dans lesquels les blocs de maisons qu'on peut créer et empiler ont plein de couleurs différentes. Et donc du coup, au lieu de... que les résultats soient affichés sous la forme d'une grille avec des petites des émojis de carrés ou de ronds de couleurs, ça crée une toute mini ville, un petit bâtiment qui correspond aux résultats, et je trouve ça hyper mignon et hyper chouette. Je sais pas si jamais vous avez déjà vu passer ça, mais j'ai trouvé ça très cool. Et sinon, jouer à Townscaper, c'est super chouette.
Je plus
c'est vrai, jouer à Townscaper.
Petit moment musique avant de retrouver Jean et notre invité. On s'écoute Into the Wilderness, Onto New Voyages, composé par Michiko Naoki pour Wild Arms. Vous écoutez 1h10 pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up, grâce au financement de l'université Sorbonne Nouvelle, et diffusée sur Radio Campus Paris. On retrouve tout de suite Jean et Emeline pour l'entretien.
Alors Emeline, bonsoir de nouveau déjà. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Comme Alexandre l'a indiqué tout à l'heure, tu es doctorante, affiliée, je le précise, à l'université Paris-Saclay. Tu travailles sur l'encadrement juridique des compétitions de jeux vidéo et je suis ravi de t'accueillir pour cet entretien car ça fait longtemps que je voulais parler d'e-sport avec l'un ou l'une de nos invités et je suis d'autant plus heureux d'aborder ce sujet avec toi par le prisme de la législation, disons, parce qu'à mon avis c'est une facette de l'e-sport qui n'est pas assez évoquée et qu'on connaît mal ou en tout cas trop peu.
Eh bah merci. Merci de me recevoir en tout cas. Merci de me recevoir, c'est un immense plaisir, j'apprends plein de choses, c'est génialissime. Merci beaucoup pour cette opportunité.
Ben, je t'en prie, avec plaisir et... content que l'émission te plaise jusqu'ici. En tout cas, pour commencer, en ce qui nous concerne pour l'entretien, en guise d'intro, disons, penchons-nous rapidement sur la façon dont est considéré l'e-sport d'un point de vue légal. comment a évolué juridiquement l'e-sport en France de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, quelles ont été les grandes étapes de son évolution juridique, si jamais on peut distinguer des étapes précises.
Alors déjà, pour commencer, il faut vraiment avoir en tête que l'e-sport avant 2016, les compétitions de jeux vidéo avant 2016, c'était pas légal en fait. Ça rentrait sous le cadre, ce qu'on va appeler, du régime des loteries et des jeux de hasard. Et donc, comme ça se jouait en ligne, ça rentrait dans l'illégalité. Il y a eu une loi fondamentale pour l'e-sport qui a posé un premier cadre. C'est la loi pour une république numérique de 2016. Alors, il y a plein de choses dans cette loi, mais on retient notamment deux articles. Le premier article, c'est l'article 101, qui pose une définition de la compétition de jeux vidéo en tant que telle, précisant d'ailleurs que celle-ci doit être une compétition organisée de manière physique. Donc ça pose déjà une première question sur les compétitions en ligne. Il y a un deuxième article ensuite qui définit en fait ce qu'est le joueur professionnel de jeux vidéo. La loi de 2016 en fait, elle a permis de poser un cadre justement à qu'est-ce qu'on appelle joueur professionnel, et notamment vis-à-vis d'un contrat spécifique en fait, qui a été édité, le CD, copié d'ailleurs sur le CDD sportif, qui est le CDD donc e-sportif. À la suite de cette loi, il y a eu deux décrets d'application. Donc, pour préciser un peu, en général, il y a une première loi. Enfin, juridiquement, comment ça se passe ? On érige une loi et ensuite, il y a des décrets d'application avec un peu plus de précision. Et c'est là que vont intervenir les deux décrets. Donc, le premier sur l'organisation de la compétition, sachant qu'il faut déclarer chaque compétition. Et voilà, il y a plein d'autres facettes dans ce décret. Et le deuxième décret précise en fait les modalités d'application de ce qu'on appelle le CDD e-sportif, justement, copié sur le CDD sportif. À l'heure actuelle, voilà le cadre global. Ce qu'il faut noter aussi, cependant, c'est que là, depuis un an ou deux même, il y a une multiplication des propositions de loi. On va avoir, par exemple, une proposition de loi sur la fiscalité des compétitions. Alors, c'est un amendement à une loi, en l'occurrence. On va avoir une proposition de loi qui a été votée, d'ailleurs, sur l'encadrement des formateurs e-sportifs. Et, par exemple, il y a eu une loi proposée là, très récemment sur le développement d'une pratique saine, avec notamment un parcours de, on va dire, un peu à la sport-études, notamment avec des repérages pour les espoirs, etc. Donc voilà, à l'heure actuelle, voilà le cadre, et on note une multiplication quand même des propositions de loi sur le sujet.
Ok. Et alors, on viendra sur certains points, notamment le statut des joueurs et joueuses professionnels. Mais rapidement, vraiment en quelques mots, est-ce que là c'est la situation française, comment on se situe par rapport au reste du monde d'un point de vue juridique sur l'e-sport ? Est-ce qu'on est, du coup, c'est tout le monde en est à peu près au même point, en train de multiplier un petit peu les initiatives juridiques, ou il y en a où c'est déjà très fixé, ou d'autres encore où c'est toujours laissé un petit peu à l'état sauvage ?
Alors globalement, la France, on peut dire qu'on n'est pas si mal loti que ça. En fait, on a tendance à dire que c'est une catastrophe en France, l'encadrement juridique en sport. Dans l'e-sport, je suis pas spécialement d'accord. Après, c'est vrai qu'on est en retard sur beaucoup de nos compatriotes. Il y a notamment la Corée du Sud. Évidemment, enfin voilà, la Corée du Sud, ça a été la première fédération d'e-sport à être créée. L'e-sport, c'est un sport national, hein, littéralement là-bas. Voilà, c'est très cadré. Aux États-Unis, on peut avoir quelques brides d'amélioration sur l'encadrement des sportifs, notamment vis-à-vis des visas, etc. Et donc en Europe, on va plutôt nous se comparer à l'Allemagne, par exemple, qui organise de plus en plus qui organise un cadre de plus en plus précis sur l'e-sport. Mais globalement, on n'a pas à rougir de nos compatriotes, je trouve.
Ok. Avant qu'on passe à la suite, d'un point de vue de ta recherche, l'e-sport, c'est un milieu qui est encore très jeune, qui en plus est en évolution rapide, donc il s'agit d'un objet de recherche certainement compliqué à appréhender. Quelles sont les contraintes et les difficultés que tu peux rencontrer, toi, en tant que chercheuse, dans ce domaine ?
Ouais, effectivement, quand je me suis lancée dans cette thèse, je pensais pas qu'il y allait avoir autant de freins. Effectivement, l'e-sport, c'est un petit milieu, c'est une petite économie. Ça pèse, en 2020, ça pesait 50 millions d'euros en France, contre 5,3 milliards, il me semble, pour le jeu vidéo. Donc c'est tout petit, c'est un petit milieu où tout le monde se connaît. Et donc quand on rentre dans le milieu e-sportif, il faut faire ses preuves, en fait. Il faut montrer qu'on n'est pas un intrus. Ça, c'est la première chose, et il faut montrer surtout qu'on n'est pas un ennemi. Je suis juriste, et fatalement que le juridique renvoie un peu à ce cadre un peu trop réglementaire, et en fait, le juriste, c'est la privation, c'est l'interdiction, etc. Et donc voilà, il y a tout un effort de démocratisation sur le juridique à faire en mode « je ne suis pas juste là pour vous interdire plein de choses, c'est pas le sujet ». Donc voilà, petit milieu, petite économie, méfiance quand même, je pense, vis-à-vis du juridique, même si ça change beaucoup, 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 hein, à l'heure actuelle, voilà. Et il y a aussi une autre grosse problématique, moi je dirais, c'est que il y a très peu de transparence en fait dans l'e-sport. Et ça, c'est une problématique. On manque de données cruciales. On manque de chiffres, par exemple. On manque de contrats de joueurs. En général, les équipes, les entités sont très réticentes à nous donner des contrats, même sous clause de confidentialité, etc. Mais enfin, ça peut être les équipes, mais c'est aussi, par exemple, un organisateur de tournoi avec un de ses sponsors, hein, par exemple. Donc voilà, si pour résumer les deux grosses contraintes, je pense. Petit milieu avec un avis sur le juridique qui est assez méfiant, je dirais, et difficulté pour obtenir des données fiables, on va dire.
Et question subsidiaire, je pense à ça parce que j'ai encore lu dans le magazine JV Le Mag de 89, qui date de février ou de janvier dernier, je ne sais plus exactement, un superbe dossier mené par notamment Héloïse Linossier, qu'on avait reçu ici, sur la place des femmes dans l'e-sport. Est-ce que toi, en plus, étant une femme en tant que chercheuse sur l'e-sport, dans ce dossier, on voit que le milieu est encore assez, disons, hostile aux femmes. Est-ce que tu peux rencontrer, en plus de la méfiance que le juridique peut susciter, est-ce que tu as pu rencontrer une méfiance parce que tu étais une femme et du coup, certaines personnalités du milieu t'auront peut-être jugé un peu, enfin, à l'aune de ce détail et non pas à celui de tes capacités?
Moi, je pense que j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Effectivement, hein, je suis à 100% d'accord avec le dossier d'Héloïse là-dessus. Et il y a une grosse problématique dans l'e-sport vis-à-vis de la féminisation de l'e-sport et tous ces sujets. Moi, je pense que j'ai eu de la chance parce qu'en tout cas, dans le milieu e-sportif, je me suis jamais heurtée frontalement à ce genre d'invectives, ce genre de réflexion, etc. Côté thèse, côté jury, enfin côté, ouais, c'est ça, côté études de droit, ça a été un peu plus compliqué de dire « bah oui, je suis une fille, je joue aux jeux vidéo, tout ça, ça... ». Voilà, le juridique, c'est assez classique, mais voilà, milieu e-sportif, à titre personnel, et encore une fois, c'est qu'à titre personnel, parce que je sais que, malheureusement, il y a plein de problématiques là-dessus, mais moi, à titre personnel, j'ai jamais eu ce genre d'expérience.
Très bien. Ok. Revenons maintenant sur le cas des joueurs et joueuses professionnels, du coup, et de leur statut. Tu dis que c'est depuis 2016 que du coup le statut, enfin qu'on a légiféré sur leur statut. Est-ce que tout le monde, enfin parle-nous du coup un petit peu de ce CDD spécifique et sinon en termes de statut, est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne chez les joueurs et les joueuses ou est-ce qu'il existe plusieurs cas de figure, plusieurs types de contrats, de régimes, d'assurance, de type de rémunération, voilà comment ça se passe pour les professionnels du milieu?
Bah alors, bon, je vais déjà revenir sur le CDD spécifique. Donc voilà, comme je l'ai dit, il a été créé par la loi de 2016. En réalité, c'est un copier-coller du CDD sportif. Le CDD sportif, c'est un CDD qui a été institutionnalisé par une loi de 2015, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, 2015, qui crée un CDD spécialisé pour les sportifs de haut niveau et notamment pour les sports où il y a des saisons. Donc bah, quasiment l'intégralité des sports puisque le sport est structuré de cette manière. C'est un copier-coller et donc le problème d'un copier-coller c'est que on y reviendra très certainement après, mais l'e-sport c'est pas 100% un sport et donc du coup il convient pas à de nombreux égards. C'est-à-dire que normalement la règle, tous les joueurs en France d'e-sport devraient être embauchés sous le régime du CDD spécifique. En pratique, en fait, on voit qu'il y a très très peu de joueurs qui sont sous ce contrat. Et donc, en général, ils adoptent un autre contrat qui s'appelle le contrat de micro-entrepreneur, donc anciennement auto-entrepreneur. C'est un contrat, en fait, donc le joueur crée sa société à part, souvent seul en tant qu'auto-entrepreneur, donc enfin sous le régime du micro-entrepreneur, et il conclut un contrat de prestation de service, en fait, avec la société. Ça pose plein de problématiques, là encore, parce que niveau sécurité des joueurs, notamment pour tout ce qui est du salaire, pour tout ce qui est du régime des retraites, du régime des assurances, etc., il y a plein de problématiques. Mais le problème, c'est que le CDD spécifique, de l'autre côté, engendre de nombreuses problématiques, tout autant si ce n'est plus, en fait. C'est-à-dire que la saisonnalité dans l'e-sport, elle n'est pas fixée comme une saisonnalité sportive. Il y a aussi d'autres problématiques qui sont que, pour délivrer ces CDD spécifiques, il faut un agrément qui est donné par le ministère de l'Intérieur aux équipes qui demandent cet agrément sous certaines conditions. Et au final, il s'avère que l'agrément est hyper difficile à avoir. Enfin, vraiment, c'est la croix et la bannière. Et troisièmement, c'est vraiment le coût de ce CDD en fait, qui pose problème. Aujourd'hui, le CDD spécifique est très coûteux, en fait. Et c'est une problématique à laquelle les équipes n'arrivent pas forcément à joindre les deux bouts, en fait. Et donc, du coup, ils préfèrent embaucher sous le régime des auto-entrepreneurs. Donc, du coup, ce qui fait que tous les joueurs ne sont pas logés à la même enseigne, du coup. Ça dépend, dans un premier temps, du type de contrat, parce que les charges ne sont pas les mêmes, si c'est un contrat d'auto-entrepreneur ou du CDD spécifique. Ça dépend aussi de la localisation des équipes, notamment avec des problématiques de visa qui sont possibles. Ça dépend des contrats de sponsoring qui sont conclus avec les joueurs, notamment. Un joueur, par exemple, Ziwoo, on se doute bien qui est un des meilleurs joueurs sur la scène CSGO, on se doute bien que niveau sponsoring, ça va pour lui. En revanche, sur un petit joueur Hearthstone qui est de rang mondial, hein, tout comme Ziwoo, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas la même visibilité. Et donc, du coup, au-delà des contrats de sponsoring, ça dépend aussi du jeu. Donc, ça dépend de plein de choses. Le statut du joueur, la question du statut des joueurs, c'est une question qui est assez compliquée quand même à résoudre à l'heure actuelle. Moi, j'en dis pas plus. C'est pas ma spécialité. C'est pas ce sur quoi je travaille dans le cadre de ma thèse. Mais il y a une thèse qui est en train d'être réalisée par un de mes confrères, du coup, qui s'appelle Célian Godefroy, et qui fait sa thèse sur les contrats de l'e-sportif professionnel. Et donc là, je pense que voilà, si vous avez besoin d'infos, je vous renvoie à ces publications parce que il est forcément beaucoup plus expert que moi sur le sujet.
Merci pour le renvoi. Est-ce que juste petite question, est-ce que toi, comment dire, je me suis toujours posé la question, souvent ces joueurs professionnels peuvent être parfois très très jeunes, parfois même mineurs. C'est des personnes peut-être pour qui les détails juridiques sont peut-être un peu éloignés de leurs préoccupations. Est-ce que du coup ils sont accompagnés? Est-ce que on voit les parents s'investir par exemple dans ces histoires de contrats, de rémunération? Est-ce que ils font directement appel aussi à des avocats? Comment est-ce que tu as pu observer la façon dont ils se démènent un petit peu avec ces problèmes juridiques?
Alors là, il y a une grosse évolution depuis que je suis arrivée dans le milieu. Donc moi, j'ai commencé ma thèse en 2019, alors officieusement en 2019, officiellement 2020. Mais donc du coup, là, il y a une grosse évolution. Effectivement, il y a certains parents hein, qui s'investissent beaucoup. Je pense notamment aux parents de Ziwoo, donc Mathieu Herbeau. Je pense également à la mère de Sébastien Debs aussi sur Dota. Et il y a aussi, donc ça, c'est des joueurs qui sont un peu plus âgés, mais aussi dans les joueurs mineurs. Il y a la maman de X-Wiz qui œuvre vraiment au développement et à la démocratisation de la pratique et qui milite vraiment pour un cadre plus adapté. On le voit de plus en plus aujourd'hui, les joueurs, donc chez les mineurs ça se voit pas trop encore parce que voilà, ils n'ont pas forcément la conscience des choses, d'où l'intérêt d'être encadré par les parents à ce sujet. Mais de plus en plus, effectivement, on voit qu'il y a des avocats qui commencent à se spécialiser, qu'il y a des entités professionnelles en fait qui commencent à conseiller, on va dire, les joueurs sur comment faire les meilleurs placements, sur ne pas se faire rouler sur un contrat, etc. Là-dessus, il y a une vraie évolution. On sent en tout cas que ça prend un certain tournant très très important pour l'e-sport.
Ok. Puisqu'on parle des joueuses et des joueurs pros, les personnes qui cherchent à défendre leur statut de sportif et de sportive vont généralement les comparer aux joueurs de foot, aux joueurs de tennis, en mettant en avant le fait que les e-sportifs et e-sportives sont aussi payés, qu'ils et elles ont aussi des horaires d'entraînement, des coachs, etc. Donc c'est un parallèle qu'on fait souvent, tu l'évoquais tout à l'heure. Dans quelle mesure ce parallèle entre e-sport et sport traditionnel est pertinent à faire?
Le parallèle, il existe et il est même très fort en pratique. Un e-sportif va avoir les mêmes entraînements qu'un sportif de haut niveau, par exemple. Je pense notamment à ces entraînements où l'on voit pour l'acuité visuelle, pour les réflexes, etc. Ça va être les mêmes entraînements qu'un sportif. Il va avoir un encadrement physique, il va avoir un encadrement avec un régime nutritif adapté aux compétitions. Il va être entouré la plupart du temps d'un corps médical, coach physique, mentaux, ergothérapeute, ostéopathe, kiné, etc. Donc, on voit qu'en pratique, vraiment, l'e-sport est une pratique physique. En pratique, moi, j'ai pas du tout de souci à le dire, et je pense que c'est important même de le dire, parce que ça œuvre vraiment à tout ce qui va être à éviter tous les clichés qu'on peut avoir sur l'e-sport et le jeu vidéo de manière générale. En revanche, juridiquement, qualifier l'e-sport de sport, c'est beaucoup plus complexe pour moi. Pourquoi le plus gros sujet ici, ça va être que le support d'une compétition de jeux vidéo, c'est un jeu vidéo qui appartient à l'éditeur. Alors qui appartient? J'aime pas trop dire ça. Sur lequel l'éditeur a tous les droits. Il a la propriété intellectuelle du jeu vidéo et donc il peut en faire ce qu'il veut. C'est la grosse différence en fait avec le sport où par exemple, bah, le ballon de foot par exemple, il n'appartient pas à quiconque. Un terrain de foot, alors certes, les tribunes appartiennent, les stades appartiennent à des sociétés. En revanche, rien n'empêche d'aller faire un foot dans un square ou quoi que ce soit. Le jeu vidéo, c'est pas possible. On doit toujours avoir une licence d'utilisation pour jouer au jeu. Et donc, c'est la grosse, grosse différence juridique pour moi qui fait que l'e-sport ne peut pas être rattaché au régime du sport. Parce que du coup, c'est beaucoup plus difficile en fait d'avoir une fédération, par exemple, étant donné que les éditeurs sont, on va dire, les maîtres du jeu, littéralement, c'est eux qui décident de la vie ou de la mort d'un jeu vidéo s'ils le souhaitent, etc. Donc voilà, là-dessus, il y a des questions qui se posent. Mais par exemple, on pourrait aussi aller au-delà du régime sportif, on pourrait totalement envisager de rapprocher par exemple le joueur d'e-sport, pourquoi pas, du régime d'artiste-interprète, par exemple. Le jeu vidéo, très rapidement, le jeu vidéo étant une œuvre de l'esprit, il peut être interprété, il est interprété dans le cadre des compétitions de jeux vidéo par les joueurs. Donc, à la limite, pourquoi pas se rapprocher du régime d'artiste-interprète. Tout ce que je dis, c'est que, voilà, en conclusion, en pratique, l'e-sport est un sport, fondamentalement. Mais juridiquement, on ne peut pas copier le régime juridique du sport sur l'e-sport, ça ne fonctionnera tout simplement pas. Et d'ailleurs, c'est un non-sujet hein, pour les acteurs du secteur. Quand on va voir les acteurs du secteur à l'heure actuelle et qu'on leur dit « mais alors du coup, l'e-sport, c'est un sport ou pas ?» En général, ils s'énervent maintenant, ils en ont marre. Ils sont au-delà de ça. Tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est un cadre propice au développement économique de leur secteur, un cadre propice au développement juridique. Et voilà, donc ça commence à être un non-sujet pour les acteurs.
Là, on touche à un sujet important qui est de la propriété intellectuelle, qui est ta spécialité d'ailleurs, tu m'en avais parlé. Le fait que les éditeurs du coup possèdent les droits de ces jeux pose un certain nombre de problèmes vis-à-vis de l'e-sport, et pour moi le tout premier qui saute aux yeux est la situation d'oligopole dans laquelle on se trouve, puisqu'entre Riot, Valve et surtout Microsoft, à la suite des rachats colossaux de ces derniers mois, avec ces trois éditeurs et deux, trois autres, c'est une petite poignée, en fait, d'acteurs, d'éditeurs, qui se trouvent à la tête de tout l'e-sport mondial. Et donc, du coup, quel genre de danger cette situation peut représenter, à la fois d'un point de vue politique, économique et aussi juridique?
Bah, oui, complètement. Donc, c'est Alexandre en a parlé tout à l'heure, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. D'ailleurs, je pense hein, que ce sera sur l'Xbox Game Pass, sans exclusivité, à mon avis, mais ce sera forcément, c'est bien là le but de Microsoft avec ce rachat pour moi. Effectivement, ces trois grands acteurs que sont Microsoft, Valve et Riot détiennent vraiment la majeure partie en fait des jeux vidéo e-sportifs. Au-delà de ça, je reviendrai après sur la part qu'ils détiennent de ces jeux, mais derrière Riot, en fait, il y a un acteur qui est primordial, qui s'appelle Tencent. Tencent, c'est le mastodonte de l'industrie vidéoludique asiatique. Et donc, au-delà de détenir à 100% Riot, il détient au moins en partie d'autres jeux. Donc Riot, qui édite notamment League of Legends, Valorant et TFT, qui sont trois gros jeux où il y a la scène e-sportive de LoL est très structurée. Valo, TFT, c'est en train de naître, plus ou moins. Mais Tencent détient aussi en partie par exemple Brawl Stars et Clash parce qu'il détient de manière majoritaire le studio Supercell. Il détient aussi en partie Epic, oui à 40% Epic et donc le jeu Fortnite. Et il détient aussi en partie minoritaire hein, cette fois-ci, mais Ubisoft et avec donc Rainbow Six. Si on prend aussi Rocket League, c'est la société mère, c'est Epic détenue du coup à 40% par Tencent. Donc au final, si on fait un calcul global rapide, non exhaustif sur le sujet, on se rend compte que à E3, donc Microsoft, Valve, Riot, détiennent environ 60% de l'offre e-sportive. Tencent à lui tout seul, c'est 32%. Donc en fait, là-dessus, Tencent a un quasi-monopole, et en tout cas, entre les trois majeurs de l'e-sport, en fait, on en arrive vraiment à un oligopole renforcé, quoi, si je puis dire, parce qu'au final, ce dont on se rend compte après, c'est que les autres jeux e-sport, et je pense notamment aux licences de Versus Fighting, globalement, c'est un éditeur égale une licence. Par exemple, Capcom va avoir la licence Street Fighter, etc. Donc voilà, après, le reste se limite à un éditeur avec une petite licence. Et donc, les dangers, en fait, de ça, c'est potentiellement l'écroulement des petits éditeurs, des scènes compétitives, des petits jeux. Je force le trait, hein, évidemment, mais admettons que Tencent, demain, veuille régir toutes ces compétitions. Il fait un calendrier avec tous les jeux qui détient potentiellement. Le calendrier est plein, ça laisse peu de place, en fait, à la scène du versus fighting, notamment. Baisse des acteurs, baisse du public, et donc, voilà, a fortiori, baisse des gains pour les plus petits, en tout cas, éditeurs. Donc, voilà, il y a un autre danger, effectivement, avec le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. C'est l'exclu Microsoft sur les consoles Xbox. Ça ne se fera pas, je pense, parce que, en fait, s'ils le font, ça pourrait être une atteinte aux règles antitrust et donc anticoncurrentielles américaines. Donc, je pense qu'ils ne le feront pas. Mais voilà, grosso modo, les dangers des éditeurs. En revanche, il y a quand même un point qui est important à souligner, c'est que au-delà de la concentration de ces éditeurs, il y a aussi une concentration au niveau des organisateurs de compétition, qui peut potentiellement poser problème à terme, parce que la plupart des organisateurs de compétition, en fait, ce sont le plus souvent les éditeurs eux-mêmes. Riot, par exemple. Riot va organiser ses compétitions. Epic organise ses compétitions également. Et au final, il y a très peu d'acteurs indépendants. Il y en a un, par exemple, on va citer ESL, Faceit, etc. Mais tous ces organisateurs sont en train plus ou moins de se faire racheter et de fusionner ensemble. ESL a récemment fusionné avec Faceit et a été racheté par un fonds saoudien, Savvy Gaming Group, qui a un peu la mainmise, enfin qui, dont l'idée, je pense, est d'avoir vraiment la mainmise sur les organisateurs de compétition. Donc, au final, là aussi, on trouve une concentration des acteurs qui n'œuvre pas du coup pour la diversification et la concurrence des différents acteurs du secteur, quoi.
Et du coup, quand tu évoquais la place que les éditeurs prennent dans l'organisation des compétitions, on va finir là-dessus d'ailleurs parce que notre entretien touche à sa fin, le temps file. Mais ouais, ces éditeurs, notamment ces gros éditeurs, s'investissent parfois très différemment dans la sphère compétitive qui est liée à leur jeu. D'un côté, tu l'évoquais, Riot organise très très clairement au cordeau les compétitions de League of Legends par exemple. Et d'un autre côté, on a Nintendo qui voit plutôt l'e-sport d'un mauvais œil et qui va rien faire pour le mettre en avant, voire le brider, ce qui illustre par exemple récemment le refus de Nintendo de voir Smash Bros. Intégrer le line-up des jeux présents à l'Evo en 2022, ce qui a été annoncé il y a quelques semaines. Donc comment on peut expliquer parfois ces différences de soutien de la part des éditeurs et qu'est-ce que ça implique juridiquement et politiquement?
Les différences, en fait, ce sont selon vraiment les volontés d'implication. Riot a toujours voulu s'investir dans la scène e-sportive. Riot s'est cité comme un exemple, hein, dans l'organisation de compétitions. Donc voilà, Riot est très protecteur de sa scène compétitive parce que l'éditeur a vraiment une volonté de s'impliquer dans la démocratisation de l'e-sport à travers le monde. On a à l'opposé de Riot, on a Valve, par exemple, qui est, lui, très permissif et qui, en gros, dès qu'il y a un nouvel organisateur qui veut arriver sur la scène, il dit oui, il donne l'accord pour utiliser son jeu. Il y a un autre problème, du coup, à ce sujet, c'est la multiplication des compétitions sur la scène CSGO, où on voit que les joueurs sont absolument épuisés, qu'il y a beaucoup trop de matchs, en fait, tout simplement. Effectivement, du coup, Nintendo, c'est assez drôle. Nintendo, on peut voir une évolution de sa politique face à l'e-sport. Pendant très longtemps, Nintendo a interdit toute compétition. Il faisait un peu, il se cachait les yeux sur certaines compétitions, mais globalement, on a eu énormément d'exemples d'annulation de compétitions en dernière minute. Il y a notamment eu une compétition qui a été annulée récemment sur Smash Bros. Melee, il me semble. Voilà, Nintendo ne voulait pas faire de l'e-sport sa priorité. Nintendo, ça a toujours été un éditeur qui s'est dit familial, et donc voilà, pour lui les compétitions c'était peu important. Finalement, il a changé d'avis, il a organisé sa scène en introduisant un semblant de circuit pour au final euh, pour au final juste refuser de participer à l'Evo là très récemment, alors que Super Smash Bros c'était quand même une entité à l'Evo, ça faisait des années que les jeux Nintendo étaient présents à l'Evo. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il peut avoir avec... enfin derrière ce refus de Nintendo, qu'est-ce qu'il peut y avoir? C'est que l'Evo a été racheté récemment, enfin a été racheté l'année dernière il me semble, par Sony. Et donc là, on est un peu sur la guerre des constructeurs de consoles, je pense, entre Sony qui détient la PlayStation, Nintendo qui détient du coup la Switch à l'heure actuelle. Donc voilà, les raisons restent floues, et je m'engagerai pas pour dire c'est sûr, c'est la problématique, mais en tout cas, on peut se poser la question de l'impact en fait du rachat de Sony par Sony de l'Evo. L'implication du coup à cette politique des éditeurs totalement différente, c'est quoi? C'est que si demain, par exemple, Valve ne souhaite plus faire de compétition CSGO, il a tout simplement à refuser d'accorder sa licence et les compétitions ne se feront plus. Idem pour Riot Games, l'éditeur a littéralement droit de vie ou de mort sur les compétitions de jeux vidéo à l'heure actuelle parce qu'il détient les droits de propriété intellectuelle en fait. Donc si on stoppe les compétitions, eh ben, il n'y a plus d'e-sport tout simplement. Donc c'est une grosse problématique, et là-dessus, les implications juridiques, en fait, elles sont quasi inexistantes. Enfin, les lignes sont très compliquées à faire bouger là-dessus, parce que voilà, le copyright, les droits d'auteur, les droits de propriété intellectuelle, c'est quelque chose qui est assez ancré dans le juridique à l'heure actuelle, et c'est la grosse problématique du secteur, quoi.
Je serais prêt encore à parler du sujet pendant des heures, mais on va malheureusement devoir s'arrêter ici. Il va être temps de passer à la seconde partie de l'entretien avec les autres membres de l'équipe, mais juste avant, seconde petite pause musicale, on écoute cette fois-ci Ezio in Florence, composé par Jasper Kidd pour Assassin's Creed 2. Vous écoutez Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up grâce au financement de l'université Sorbonne Nouvelle et diffusée sur Radio Campus Paris. Alors avant de laisser la parole aux autres membres d'Une heure et des pixels, Emeline, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots pourquoi tu as choisi ce morceau d'Assassin's Creed 2, voilà, puisque je t'avais demandé un morceau pour notre interlude musical, et pourquoi précisément ce morceau de la bande sonore du jeu?
Je pense que j'ai pas fait très original hein, sur la bande son. Assassin's Creed, pourquoi? Je pense que Assassin's Creed, c'est le jeu qui m'a, de manière générale, qui m'a ouvert vraiment à toute cette période, enfin toutes ces problématiques historiques, etc. Enfin vraiment vis-à-vis d'Assassin's Creed, j'aimais déjà beaucoup l'histoire, mais grâce au jeu, à la série Assassin's Creed, vraiment, je me suis passionnée pour l'histoire, pour l'histoire des civilisations, etc. Et j'ai longtemps hésité à faire des études, hein, d'ailleurs sur le sujet. Finalement, je suis partie sur le juridique. Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà, Assassin's Creed, ça m'a toujours fasciné historiquement parlant. Et au-delà de ça, pourquoi cette bande son? Parce qu'en fait, Assassin's Creed 2, il est sorti en 2009. Donc moi, j'étais sur Xbox. Je crois hein, qu'il est sorti en 2009. J'étais sur Xbox 360. Et je pense que c'est le premier jeu que j'ai réellement terminé de A à Z, en finissant vraiment tout. Ouais, c'est arrivé tardivement, mais c'est vraiment le jeu que j'ai fini, le premier jeu que j'ai fini. Et donc, pourquoi cette bande-son? Parce que je me rappelle, c'est un souvenir qui m'a vraiment ancré, quoi. C'est le moment où Ezio revient à Florence, et ça sonne un peu badass, quoi, en fait. Et j'adore ce morceau, et je pense que dès que j'ai besoin de rédiger un peu, par exemple, dès que je me mets à rédiger ma thèse, par exemple, c'est le premier morceau que je vais écouter, vraiment. C'est, voilà, j'adore ce morceau, et donc voilà, c'était un petit clin d'œil.
Merci beaucoup pour ta réponse. Je pense que à Ubisoft, on doit être hyper content de savoir que quelqu'un s'est passionné pour l'histoire grâce à leur jeu. Je pense que là, c'est exactement ce qu'ils visent. Ils ont rempli leur contrat et ils doivent être très heureux. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et maintenant, je laisse le micro, du coup, aux autres membres de l'équipe, si jamais ils ont des questions à te poser sur tout ce qui touche au juridique dans l'e-sport.
Ouais, du coup, merci beaucoup pour cet entretien. C'était super intéressant. En particulier quand tu parlais des contrats freelance, etc., du fait que l'e-sport reste, enfin ouais, que de ce côté-là ça reste relativement peu encadré, voilà, c'est quelque chose qu'on voit énormément aussi du côté du développement, où il y a beaucoup de boîtes qui aiment bien passer par de l'auto-entrepreneur. Donc de notre côté on dit freelance, et ça tombe souvent sur du salarié déguisé, à base de, enfin voilà, la personne ne bosse que pour une seule boîte, mais elle a un contrat auto-entrepreneur slash freelance. Et du coup, je me demandais, comment dire ça, est-ce que ce manque de reconnaissance, ce manque d'intérêt de la part des politiques qui veulent pas vraiment réglementer et voir pour une réglementation adaptée à l'e-sport, accentue une certaine précarisation des travailleurs, des travailleuses? Parce que ouais, de notre côté, on voit très bien que les CDI, CDD, c'est pas toujours la panacée dans le jeu vidéo, mais alors la freelance, c'est vraiment un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres.
Ouais, bah, complètement. Le freelance, l'auto-entrepreneuriat, c'est quand même, il y a de nombreux avantages, hein. Par exemple, typiquement, un joueur e-sport va souvent, très souvent, en tout cas, préférer être embauché au régime auto-entrepreneur qu'au régime CDD spécifique. Pourquoi? Parce que les charges sont bien moindres et donc du coup, il gagne un peu plus. En gros, c'est l'idée. Et c'est vrai que là-dessus, le secteur manque un peu de maturité. C'est-à-dire que là où les développeurs enfin, je pense, hein, vous me direz si je me trompe, mais là où les développeurs souhaitent vraiment une sécurité juridique, pour l'instant dans l'e-sport, on le voit pas. La problématique à tout ça, c'est qu'en fait, tant que, à part un très petit nombre d'acteurs, hein, mais qui œuvrent vraiment pour le salariat dans l'e-sport, c'est vrai que bon voilà, il y en a beaucoup qui disent que en fait au final ça leur convient très très bien comme ça. Et c'est un peu la problématique parce que du coup ça ne fait pas du tout avancer le secteur, et effectivement il y a une précarisation des joueurs e-sportifs. Alors je pense que à un niveau ultra professionnel, type les grosses équipes, type Vitality, etc., Vitality qui a l'agrément d'ailleurs, donc je ne sais pas si aujourd'hui tous les joueurs sont embauchés au CDD spécifique, mais normalement Vitality peut délivrer des CDD spécifiques, à voir maintenant s'ils le font en pratique, mais en tout cas dans les grosses équipes on n'a pas eu de gros scandales qui ont émergé. En revanche, dans des équipes semi-professionnelles, voire amateurs qui sont en train de se professionnaliser, il y a encore aujourd'hui des dizaines de joueurs qui viennent voir des avocats, qui viennent voir des professionnels du juridique pour dire « Écoutez, moi j'ai pas été payé pour la dernière saison, ou j'ai pas été payé, on m'a pas donné mon cash prize, etc. » Donc oui, malheureusement, le fait qu'il n'y ait pas de cadre adapté à l'e-sport aujourd'hui crée une insécurité juridique et une précarisation des joueurs e-sportifs. Ouais.
Oui, merci beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses. Je me demandais, est-ce que justement le fait qu'il y ait encore cette absence de cadre, ou enfin cette insécurité juridique comme tu disais, c'est pas aussi renforcé par le fait, tu l'expliquais, qu'il n'y a pas beaucoup de transparence, qu'il y a peu de données fiables, et donc il n'y a pas forcément peut-être de chiffres, de statistiques qui sont bien établies, on n'a peut-être pas encore assez de recul.
Ben complètement. C'est sûr qu'aujourd'hui, toutes les données seraient à disposition, on cernerait beaucoup plus vite le problème, et même de la part des pouvoirs publics. Hein. C'est-à-dire que on peut dire, hein, très clairement que les pouvoirs publics aujourd'hui ne sont pas très réactifs pour faire avancer l'e-sport. C'est pas leur priorité, etc. Et ça, malheureusement, on est obligé de le dire. Mais il y a aussi une grosse problématique, c'est que tant que les chiffres, les clauses des contrats ne sont pas dévoilées de manière un peu plus transparente, et je parle pas de dévoiler juste les salaires des joueurs, etc., ça n'a pas d'intérêt, enfin, ça a moins d'intérêt en tout cas que de dévoiler une clause, par exemple, d'exclusivité pour voir un peu s'il y a potentiellement une requalification en contrat de travail qui peut se faire, etc. tant qu'on n'a pas cette transparence, cette confiance qui est arrivée un peu plus à maturité dans l'e-sport, malheureusement, ça avancera toujours aussi lentement de ce point de vue. Mais comme du point de vue des joueurs, que du point de vue, par exemple, des organisateurs de compétition, comme du point de vue droit de la concurrence, en fait, par exemple. Tant qu'on n'a pas une transparence sur certaines données, et encore une fois, il ne s'agit pas de tout dévoiler, hein, c'est pas l'intérêt, mais de dévoiler ce qui est utile à faire progresser le secteur, on avancera de manière très, très lente, pour moi.
Moi, je rebondirais bien sur un aspect un peu différent de l'entretien, mais je me posais la question de... donc, tu disais, t'es en thèse de doctorat. Au niveau des financements, comment ça se passe pour ce type de recherche? Et au niveau de l'encadrement aussi, et au niveau, du coup, de la relation avec... Parce que, du coup, nécessairement, tu dois travailler avec beaucoup d'entreprises du secteur, du coup, pour réussir à récupérer de l'information. Et du coup, je me demandais comment ça se passait. Est-ce qu'il y a de la contractualisation en chiffres, par exemple, ou est-ce que du coup, tu arrives à obtenir des financements
Bah alors effectivement, moi je suis en contrat chiffre en fait. Donc les thèses, enfin les financements, c'est les financements classiques. Donc il y a le contrat doctoral, il y a les thèses autofinancées et il y a le fameux contrat chiffre. Pour ma part, moi je suis sous convention chiffre du coup. Donc je travaille avec Paris & Co, qui est l'agence de développement économique de la ville de Paris, enfin portée en partie par la ville de Paris, pas uniquement. Mais qui a une branche dédiée à l'e-sport. Et dans cette branche dédiée à l'e-sport, effectivement, on travaille avec un nombre d'acteurs, tous les acteurs du secteur, en fait, hein, quasiment, en France en tout cas. Donc ce qui m'aide grandement, moi, à avoir justement à recueillir certaines données, et encore, même moi, à mon échelle, j'ai quand même certaines difficultés. Mais niveau financement, voilà comment ça se passe. Du coup, moi, je suis sous convention CIFRE, je suis rémunérée du coup par mon entreprise, donc qui est Paris & Co. Et ensuite, il y a une convention tripartite entre Paris & Co, moi-même et mon laboratoire de recherche, donc qui est à l'Université Paris-Saclay. Le laboratoire de recherche, c'est le CERDI. Et donc voilà, ça, on a contractualisé. Et moi, à titre personnel, pour aller recueillir des informations, comment ça se passe, effectivement, ça va être grâce à Level, donc grâce à la branche e-sport de Paris & Co, qui s'appelle Level 256, j'ai pas mal de contacts. Ça va être effectivement de les contacter dans un premier temps. Et ensuite, à chaque fois, c'est une clause de confidentialité en fait, que je fais signer en fait, pour dire qu'ils m'autorisent à divulguer des données dans ma thèse, dans le cadre de ma thèse et uniquement dans le cadre de ma thèse, de manière anonyme ou non. En fait, c'est eux qui choisissent. Et donc, à la suite de ça, on mène l'entretien de manière classique, quoi.
Imagine, tu bosses dans le jeu vidéo et t'es pas sous NDA.
Je bosse dans le jeu. Bah alors, je bosse dans le jeu vidéo, oui et non, hein, en fait. Enfin, Paris & Co, c'est quand même, ça a quand même une spécificité, c'est que on est là pour accompagner des jeunes entrepreneurs, en gros, les faire évoluer, etc. Donc, effectivement, chez Paris & Co, nous n'avons pas de NDA. Après, moi, en fait, c'est la clause de confidentialité, en fait, que je fais signer aux personnes avec qui je m'entretiens. En fait, elle est plutôt pour moi, hein, disons-le clairement. C'est moi qui vais dire, vous inquiétez pas, si vous voulez garder l'anonymat, si vous voulez que telle ou telle donnée ne soit pas divulguée, ben, très bien, on le fait pas, quoi. C'est une clause de confidentialité, on va dire bipartite, mais qui est plus dans mon sens. C'est, en fait, plus qu'un NDA classique, c'est vraiment pour leur dire qu'ils peuvent avoir confiance en fait, que je suis pas l'ennemi en fait, je suis pas là pour casser tout leur business, quoi, en fait.
Ouais, non, mais en vrai, de toute façon, t'as raison, c'est sûr que quand tu commences à toucher à des relations avec des entreprises dans le cadre de la recherche, t'es obligé d'être, enfin, t'es obligé de te protéger en fait, parce que
bah, bon, complètement.
Clairement, clairement, ça peut, enfin, on n'a pas envie que ça devienne conflictuel. À la fois pour soi individuellement et à la fois pour le secteur de la recherche qui est déjà assez compliqué quand il y a à avoir des relations avec des entreprises. Donc ouais, ça c'est normal.
Complètement.
Merci Jean d'avoir conduit cet entretien et merci Emeline pour tes réponses très enrichissantes. On va continuer l'émission avec Ash qui va prendre les rênes un peu jusqu'à la fin. Tout d'abord avec ta chronique et ensuite avec le Blind Test.
Merci Alex. Aujourd'hui, je voulais parler de Women in Games. Mais honnêtement, ce mois-ci, j'ai vraiment pas envie de faire de chronique. Il y a quelques jours, j'ai regardé les Pégases, la grande remise des prix des meilleurs jeux vidéo français. J'y ai vu défiler sur scène des agresseurs, des harceleurs, d'autres les ayant activement protégés. J'ai fini par faire le compte sur un petit coin de feuille pour tenir le coup. Et faut bien voir que perso, je connais pas grand monde dans le jeu vidéo. Mon compte était sûrement bien incomplet. On y a aussi vu défiler plusieurs discours rêvant de plus de diversité dans l'industrie. C'est très bien, mais tous s'accordaient sur le fait que le point central pour arriver à ça, c'était une meilleure représentation à l'écran. Ils déclaraient que le problème c'était la représentation, tout en serrant les mains d'agresseurs et de complices. C'est du foutage de gueule. Le problème il est là, dans l'industrie. La représentation, c'est une diversion pour éviter de parler des problèmes. C'est toujours nous dire que ça ira mieux avec la prochaine génération. La prochaine génération qui se retrouvera dans une industrie dont l'accès est toujours plus barricadé, qui précarise toujours plus ses travailleuses, un milieu toujours plus fertile pour les abus sexistes et les discriminations. Women in Games a été un outil fondamental pour établir ce discours et combattre la prise de conscience féministe dans le milieu du jeu vidéo. Women in Games, de son petit nom WIG, a été créé en 2017, il y a à peine 5 ans, sous l'impulsion et sur les fonds du SNJV. Si vous connaissez pas, le SNJV c'est un syndicat de patrons, un peu le MEDEF du jeu vidéo. À cette époque, il existait déjà un petit milieu militant, le RIJV, etc. J'ai discuté avec quelques militants militantes de l'époque, et oui, il est un peu arrivé comme un raz-de-marée. Avec les moyens et les relations du SNJV, l'asso pouvait organiser des actions, une présence dans tous les événements, des conférences, etc. Trop bien, plein de visibilité pour le féminisme ? Bah, pas vraiment. Parce que si qui s'y disait, c'était pas la même chose. Dès le début, le mot d'ordre chez WIG, c'était qu'il faut donner envie aux petites filles de venir dans le jeu vidéo, et donc de montrer que l'industrie, elle est bien. On ne parle donc pas de la violence, de la discrimination, du harcèlement. Et avec son budget et sa visibilité, WIG a écrasé tous les autres discours pour imposer celui-là. Ça continue aujourd'hui. Cette année, pour le 8 mars, WIG vous proposait des ateliers découvertes et coaching chez Ubisoft. Premièrement, ça n'a rien de neutre de proposer ça en un jour de grève féministe, qui commémore l'une des premières grèves féministes, il y a un siècle, sous l'impulsion des féministes socialistes. Ainsi, WIG s'oppose directement à ce mouvement. Deuxièmement, elles choisissent une boîte actuellement sous le coup d'une enquête pour harcèlement institutionnel, et qui a fait la une des journaux il y a un an pour son sexisme et son harcèlement. Rien que ça. Vouloir montrer l'industrie comme toute rose, c'est ni plus ni moins que participer à son pinkwashing, et s'opposer au mouvement féministe qui se construit. Bien sûr, il y a plusieurs discours au sein de l'asso, et certains membres de WIG décrivent de façon très pertinente les problématiques qui font partir les femmes de l'industrie. Mais ce qu'il se passe, c'est un phénomène qu'on ne connaît que trop bien dans le féminisme dans le dernier demi-siècle, l'institutionnalisation du féminisme. En gros, depuis la grande vague féministe du MLF en 69, beaucoup d'associations féministes se sont créées et ont reçu de grosses subventions. Seulement, ces subventions allaient toujours d'abord aux projets les plus complaisants. C'est ces discours-là qui prenaient de la visibilité et qui se répandaient comme le discours féministe, effaçant des décennies de théorisation et de lutte. Et c'est exactement ce qu'il se passe à WIG. S'il y a énormément de gens bien chez WIG, la fonction de l'assos, c'est d'étouffer les discours qui dévient trop. C'était quoi le dernier projet financé par WIG ? Gender Swap. Vous vous souvenez du mode de Batman Arkham Knight qui échangeait les modèles 3D de Batman et de Catwoman, nous montrant un Batman se déhanchant d'une manière féline et sensuelle face à une Catwoman droite et virile ? Ben, il reprenait tous les modes du genre, de Batman à Mortal Kombat en passant par Bayonetta, et il proposait à des streamers d'y jouer en live, pour les commenter. Le tout annoncé en grande pompe, avec une identité visuelle, pour un projet qui sera également présenté en entreprise. Seulement, s'il y avait une seule meuf trans chez WIG, elle aurait pu les prévenir que Gender Swap, c'était un hashtag qui menait souvent vers des dessins un peu misogynes, mais aussi vers du porn très transphobe. Et s'il y avait un seul gay, il aurait pu les prévenir qu'aller rire d'un mec qui se déhanche nonchalamment et qui fait des culs de poule sur des selfies, sur un tweet ça pouvait passer, mais développé sur une série de streams pendant 48 heures, ça devenait vite homophobe. Et homophobe, ça l'a été. Haha, Batman qui se déhanche, ça fait un peu bizarre, ouais! Le pire, c'est que c'est du mauvais féminisme. On déplace les comportements stéréotypés féminins sur des mecs pour s'en moquer, mais c'est toujours de la misogynie. Et c'est tellement désespérément hétéro. Ça fait longtemps que la communauté LGBT joue librement avec les normes de genre. Le ballroom, le drag, les butch, les femmes, les studs, les bears, les clones, les folles. Obviously, la non-binarité. Parce qu'on sait que le harcèlement et la violence sexiste, elles sont ni la faute à la féminité ou à la masculinité. C'est parce qu'une domination structurelle, économique, juridique marginalise les femmes et les minorités de genre, les met dans des situations où elles sont sans pouvoir, où elles ne pourront rien faire face à l'agression. Bien sûr, ce n'est pas tout le problème, mais c'en est bien une base incontournable. Pourquoi le budget de Women in Games va vers un projet mou, vu et revu depuis 10 ans, passivement homophobe et misogyne, au lieu par exemple de parler de ces problèmes, d'inviter les journalistes et les syndicalistes qui ont fait ces dernières années un travail énorme sur le harcèlement au travail, la culture misogyne, les écoles de jeux vidéo et toute la violence qui s'y produit, etc. Parce que c'est pas l'argent du SNJV qui va aller là-dedans. Parce que c'est une association dont le rôle, pour les patrons, est d'étouffer la prise de conscience féministe. Est-ce qu'on peut utiliser la représentation pour mettre en lumière le fond du problème ? Oui, bien sûr. Mais n'importe qui vous vend que la représentation, c'est vraiment le cœur du problème, ou que c'est juste une question de bien inconscient à déconstruire, et pas une question politique, économique, structurelle, participe, bon gré mal gré, à cet antiféminisme. Et le discours le plus féministe des Pégases, c'était peut-être celui de Marine Mac, même s'il ne mentionnait pas spécifiquement les femmes, et on la salue.
Merci beaucoup pour ta chronique, H. Je trouve que c'était très intéressant, et oui, je suis d'accord avec toi sur cette institutionnalisation qu'on retrouve du féminisme et qui noie un peu les discours plus radicaux. Et alors c'était en lien avec le 8 mars, mais il y a en fait le STJV qui a organisé le week-end suivant, je crois que c'était juste hier, il me semble, une des tables rondes justement autour du féminisme et des liens avec les jeux vidéo. Alors j'ai pas pu y assister encore, mais il me semble justement qu'ils abordaient des thèmes que je pense on verra jamais, ou en tout cas pas dans longtemps à mon avis, chez WIG.
Ouais, j'ai regardé que la première table ronde, je vais essayer de choper les replays des autres. J'étais pas d'accord avec tout, mais effectivement, on sent que déjà, enfin, rien que le fait que, ouais, ce soit le STJV, qu'il y a plus de liberté pour plus de prises de position différentes, etc. Et c'était assez intéressant,
ouais. Ouais, mais j'allais dire, il y a tellement de langues sur Terre, and you choose to speak to facts. La dimension queerphobe de gender swap a vraiment été un truc qui était très comment dire, c'était pas difficile du tout à anticiper en fait, et j'étais extrêmement mal à l'aise sur le choix de décliner ça sur un si long événement, et en plus une des conséquences de ça, c'est que ce qui se passait, c'est que ça recentrait le discours sur la question des représentations de la masculinité, c'est-à-dire que finalement ce qui ressortait majoritairement de l'expérience gender swap telle qu'elle a été menée à ce moment-là, ça a été l'idée que quand même ce serait bien d'avoir plus de types masculins différents représentés à l'écran en fait. Et du coup c'est une espèce de façon de complètement noyer le poisson de ce qui aurait dû être en fait le propos, quand bien même on fixerait sur les questions de représentation. Donc ouais, à titre personnel j'ai été un peu mal à l'aise de cette démarche et de tous les problèmes qui auraient pu être évités si effectivement il y avait eu un peu plus de personnes queer impliquées dans le développement de la chose, ne serait-ce effectivement, comme tu le rappelais, que le hashtag, quoi.
Oui, bah oui, complètement. Et puis, ouais, j'ai aussi l'impression que comme on sait qu'à Women in... Enfin, ouais, voilà, perso, je... m'approche pas, enfin je vais pas spécialement m'impliquer dans Women Games parce que je sais très bien que je pourrais pas parler de cette dimension des dimensions un peu plus réelles et concrètes des questions de sexisme, etc. et comment dire ça, et j'ai l'impression que c'est aussi un truc qui, enfin que c'est pour ça que dès que tu vas dans les syndicats, dès que t'allais sur le stream du STJV aussi par exemple, bah tu trouves beaucoup plus de personnes queer et tu trouves un discours que je trouve est beaucoup plus construit sur ces questions là parce que tout simplement comment dire ça, parce qu'on a cette possibilité de faire mieux le lien entre ce qui se passe en réalité et ces problèmes de représentation, et d'aller un peu plus profondément fouiller les choses.
Du coup, très rapide, merci infiniment pour cette chronique, c'est hyper intéressant et ça fait même ultra plaisir d'entendre ce genre de choses. Moi j'avais une petite question parce que justement dans l'e-sport là à l'heure actuelle, on voit que de plus en plus il y a ce genre d'initiative, il y a notamment l'équipe SK Gaming qui est une grosse entité américaine, Ken, si je dis pas de bêtises, qui a monté un projet là récemment qui s'appelle le projet Avarosa, qui a pour vocation en fait de créer une équipe, alors selon ces termes, c'est vraiment diversifié pour femmes non binaires et plus généralement toute minorité. Comment accueillir, enfin comment toi t'accueilles à titre personnel, enfin ou même c'est vraiment une question ouverte, ce genre de projet dans l'e-sport, parce que là c'est pas vraiment uniquement femmes, c'est vraiment En tout cas, d'après ce qu'ils disent, hein, et d'après leur leitmotiv sur Internet, c'est vraiment toute minorité. Comment accueillir justement ce genre d'initiative dans l'e-sport?
J'essaie de réfléchir à une réponse. C'est vrai que c'est justement la question du sport, de toute façon, de façon générale, et en plus de l'e-sport, je les connais pas forcément, elles sont toujours assez spécifiques sur les questions de genre. Effectivement, de loin, ça me semble... Oui, c'est ça, c'est... Ouais, voilà, j'ai pas une connaissance très spécifique de pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes dans l'e-sport et de minorités en général, et de tous les mécanismes qui font que, il y a quasi... Enfin, la seule joueuse que je peux citer dans l'e-sport, il me semble que c'est la joueuse de Overwatch qui avait fini par partir parce qu'il y avait beaucoup trop de harcèlement, etc. Donc, donc de loin, je saurais pas exactement comment faire bouger les choses. De toute façon, c'est toujours le genre d'initiative qui au début est nécessaire, et après je sais pas vers où ça mènera. Mais voilà, c'est pareil, Women Games aurait pu est une initiative qui aurait pu être qui aurait pu enfin qui peut déclencher des trucs, enfin où il peut y commencer à y avoir des meufs qui discutent pareil et qui et commencer à avoir une prise de conscience. Mais c'est aussi sur le long terme un truc qui va, je pense, limiter les trucs. Et je pense que ça peut être, c'est à peu près la même chose. Genre, j'espère que c'est à la fois quelque chose qui fera naître des discussions et des prises de conscience, etc. Et potentiellement qui sera dépassé un jour. Mais voilà, effectivement, ça me semble, c'est vrai que voilà, rien que le fait de pas avoir mis woman in machin et je me souviens qu'il y avait beaucoup ce truc des teams d'e-sport féminines. À une certaine époque, et je sais pas du tout si ça se fait encore aujourd'hui, parce que ça... Enfin voilà, j'en entends plus du tout parler. Et ouais, le titre, le nom est à peu près neutre, ça semble ok de loin.
Merci H pour ta chronique. Je te laisse le micro pour le blind test, où tu vas nous faire danser.
Exactement, ce mois-ci, le thème du blind test, c'est... vous avez chanté, eh bien, dansez maintenant. J'avais fait mon premier blind test sur des BO de jeux qui étaient chantés, et cette fois-ci, on va chercher des jeux où on danse, que ce soit des jeux entièrement autour de la danse, ou il y ait juste un petit mini-jeu de danse, il va falloir trouver ça. Et on part avec le premier morceau, qui est un petit jeu du cœur, et c'est parti.
Final Fantasy VII,
c'est Yakuza, non ?
Oui.
Yakuza,
le remake.
Je sais plus, 6.
Là, c'est le 0.
C'est le 0, très bien.
C'est effectivement Yakuza 0 et son célèbre mini-jeu de danse du Friday Night. Yakuza, donc, si vous la connaissez pas, qui est une série de jeux absolument incroyable, de RPG dans le monde des Yakuza, mais qui est complètement décalé, qui est très drôle, qui est extrêmement bien écrite. Et je pense qu'on est beaucoup autour de la table à vraiment la porter dans notre cœur.
Bah, je les ai pas tous faits, j'en ai jamais terminé un, mais ça a toujours été un très bon moment.
Et du coup, on passe au second, qui est un peu un truc générationnel pour moi. J'espère que quelqu'un le trouvera dès les premiers bouts de son. Et je vais lancer ça tout de suite. These beats are the done diggity.
C'est Butterfly, c'est Dance Dance Revolution aussi.
Oui. Exactement, c'est DDR, c'est la très célèbre Butterfly, mais évidemment Dance Dance Revolution et toute son esthétique dans les années 2000.
Incroyable, j'ai 12 ans à nouveau.
Oui. Du coup, on passe au morceau suivant. Celui-là, c'est mon petit favori du blind test. Après, il est assez compliqué, il est assez pointu, j'espère que quelqu'un le trouvera. Et si vous voulez un indice, il y a Akira Yamaoka dedans, mais c'est pas exactement le Akira Yamaoka des Silent Hill. Just how I like it. Bring it on. I'm looking
forward to this. So show me your best. C'est Persona Dancing Gold Knight.
Oui.
Ouf. Pour la vache.
Bien joué.
Bien joué, Thaïs.
C'est beau.
C'était très pointu. C'est effectivement un morceau de Persona 4 Dancing All Night. Donc un remix d'un thème de battle de Persona 4 Golden, qui est donc...
Ah, c'est Persona 4, ouais.
Voilà, oui, c'est oui. Ça, qui est donc le...
C'est Time to Make History.
Exactement. Time to Make History, qui est donc dans la version extended de Persona 4 uniquement, et ce remix là n'est uniquement que dans la version dense du jeu. Un petit jeu qui est très sympa, qui a eu une histoire très sympa. Vraiment, les spin-offs de Persona, ils s'appliquent beaucoup dessus, et si vous aimez bien la saga, je vous conseille vraiment de pas hésiter à aller jeter un coup d'œil. Et voilà, Persona, forcément, un grand jeu de cœur.
Accessoirement, même si vous jouez pas au jeu, ça vaut vraiment le coup d'aller écouter les remixes des versions Dancing. À chaque fois, elles sont mais spatiales, quoi.
Ouais. On va passer un grand classique, et j'ai peur que toutes mes chansons se fassent sniper, mais c'est pas grave, j'espère que vous la trouverez très très vite.
Space Channel 5.
Oui. Et fait évidemment Space Channel 5 que je pouvais pas rater, le fameux jeu de rythme de la Dreamcast qui a un peu eu cette réputation d'être un jeu ok un peu bizarre, qui est absolument incroyable. À chaque fois que j'y rejoue des petits bouts, je découvre des idées complètement folles, et c'est très simple, mais c'est vraiment très très drôle et très très attachant. Et le dernier, je l'ai découvert en faisant mes recherches pour ce blind test, donc c'est peut-être un peu pointu. Peut-être que vous le connaissez pas, mais n'hésitez pas à essayer de deviner. Et évidemment, c'est donc une musique absolument officielle et licenciée, etc. Et la voici.
Et du coup, c'est Mario. Mais
c'est du Mario, inconceptablement.
Mario Superstars.
Non.
Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
On est d'accord que du coup c'est pas un jeu Mario.
Oui, non.
C'est un jeu licencié
Mario. Une collab officielle avec Konami. Avec Nintendo. Et Konami, du coup.
DDR ? C'est dans Dance Dance Revolution, un truc dans le genre.
C'est Dance Dance Revolution Mario Mix. Effectivement, sorti sur GameCube. Voilà, j'ai complètement découvert qu'il y avait un spin-off entier de DDR sur Mario, qui a donc plein de remixes différents.
Yes.
Et plein de concepts un peu sympas pour les niveaux et tout.
En tout cas, merci Konami.
Oh oui. Cette époque des collaborations incroyables.
En tout cas, je suis surpris que presque tout ait été snipé très vite.
Oui, c'est ça, je me disais que ce serait des trucs très spécifiques et qu'avec un peu de chance, il y en aurait 2-3 qui seraient pas trop trop vite reconnus, mais où vous seriez passé à côté, mais non, c'était un sans faute. Entre toi et Thaïs d'ailleurs, surtout.
Oui, parce que moi je suis passé à côté pour le coup, hein. J'étais pas là.
Très très nul en blind test de mon côté.
Je suis là pour les jeux japonais, c'est tout.
C'est vrai que ton émission trimestrielle est très bien tombée.
Ouais, parfait, les planètes s'alignent.
Merci H pour ce blind test fort dansant.
Jean, c'est toi qui te chargeras du blind test le mois prochain. Est-ce que tu as déjà trouvé un thème ?
Oui, je me dis que je vais faire un blind test qui a pour sujet les jeux d'enquête. Donc voilà, ça m'est venu comme ça me chauffe bien. J'ai déjà 2-3 idées en tête, donc je vais peaufiner ça dans les semaines à venir.
Voilà, la majorité des jeux d'enquête que je connais, c'est des jeux japonais, donc je pense pas que ça le... je pense pas que ça le fasse.
Écoute, y a peu de chance, mais peut-être que j'irai choper une ou deux rarities à droite à gauche au Japon, c'est possible.
Très bien, j'ai hâte d'écouter ça le mois prochain. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up grâce au financement de l'université Sorbonne Nouvelle et diffusée sur Radio Campus Paris. Un grand merci à toute l'équipe pour ses chroniques, à Emeline pour sa présence et d'avoir accepté de répondre à nos questions, à la Sorbonne Nouvelle pour les financements, et bien sûr à Lazare, notre réalisateur qui se charge du montage de nos émissions. On se retrouve le mois prochain, et d'ici là, portez-vous bien.